Chapitre 8e. Pourquoi ne pas le tuer ? Le commandant, cependant, ayant épuisé son revolver, le jeta violemment comme une pierre à Martin Numa. Cette fois, le revolver qui n'avait jamais touché, quand il tirait, atteignit la cible vivante, ce que ne fit aucun projectile. Martin Numa, qui avait vu l'arme venir sur lui, fit un mouvement pour l'éviter. Il pencha un peu le corps. Et sa théorie qui disait que pour ne pas être touché, il fallait ne pas bouger, trouva là une preuve violente. Le revolver l'atteignit à la jambe, cependant. Malgré son écart et dans le mouvement qu'il fit, il glissa sur le rocher où il se tenait. Il glissa sur la mousse qui recouvrait ce rocher et il roula à terre. Ainsi le comique coudoie toujours le tragique. Or la chute ne fut ni longue ni dangereuse, une simple glissade. Mais cela suffit pour donner le temps au bandit de se sauver. Quand Martin Numa se releva, le commandant caché, comme ses hommes tout à l'heure, par les rochers, fuyait. Et ce hasard que Martin Numa niait toujours, ce hasard voulait que, depuis le commencement de ce singulier duel, le roi des détectives se trouvât précisément en face de son adversaire et mit Prosper dans l'impossibilité de tirer sur le bandit sans risquer de blesser son chef. Prosper rageait. Il n'osait rien dire à son chef. Il se demandait pourquoi il ne faisait pas usage de son arme, pourquoi il ne répondait pas au feu de son ennemi, pourquoi, enfin, l'occasion étant belle, il ne l'abattait pas définitivement. Qu'aurait-on pu lui dire plus tard, lui reprocher? N'était-il pas la poursuite de ces malfaiteurs? N'était-il pas ici en cas de légitime défense? Prosper n'y comprenait plus rien. Quand Martin Numa glissa et tomba, Prosper poussa un cri de joie. Il allait pouvoir tirer, enfin. Vivement, il visa avec son revolver le bandit qui commençait sa fuite sans perte de temps. Il fit feu. Un cri de douleur lui annonça que son coup avait porté. Mais il ne put renouveler, car déjà le bandit s'abritait derrière les rochers. Pendant ce temps, si rapide qu'il fût, Martin Numa s'était relevé. Promptement, il saisit Prosper par le poignet. « Venez » cria-t-il, « venez !»« Laissez-moi courir après cet homme !» dit Prosper, voulant se défaire de cette étreinte. « Je l'ai blessé, il est à nous, venez !» répéta Martin Numa. Et brusquement, il l'entraîna. Ils sortaient à peine de la grotte, qu'un énorme bloc de graisse se détachait du plafond et tombait à la place qu'ils occupaient. Un autre ne tardait pas à choir, avec un bruit épouvantable. Maintenant il semblait que la grotte s'ébranlait. Les bandits poussaient des cris de joie au dehors. Ils croyaient cette fois Martin Numa écrasé sous cette avalanche de pierres. À vrai dire, le roi des détectives et son lieutenant, s'ils n'étaient pas écrasés, avaient assez de mal à se garantir contre les pierres qui tombaient ainsi et ricochaient. Mais ils étaient jusqu'à présent sains et saufs. Martin Numa avait parfaitement vu au cours de ses premières visites à la grotte que le plafond, la voûte, n'était pas d'une solidité extraordinaire. Il remarqua que des étais soutenaient encore certains blocs énormes et qu'il suffirait d'un rien pour enlever les étais et faire écrouler la voûte. Seulement, il jugeait cette manœuvre extrêmement dangereuse et pensait que les bandits, si c'était là une de leurs précautions de garantie, ne devaient en faire usage que prudemment et en dernière extrémité. Aujourd'hui, tant qu'il voyait dans la grotte un bandit et pendant surtout qu'il se laissait complaisamment fusiller par le commandant, il se disait qu'il n'avait rien à redouter, que l'écroulement de la grotte ne pouvait se produire. Mais quand le roi des bandits, ayant épuisé les cartouches de son revolver, prit la fuite, Martin Numa jugea le moment dangereux. Il entraîna Prosper. Pendant qu'il fuyait, le roi des bandits, de son côté, parvenait par la cheminée à sortir de la grotte. À ce moment, quand il fut auprès de ses hommes, la première roche se détacha de la voûte. Mais Martin Numa et Prosper ne pouvaient être atteints, écrasés. Ils n'avaient qu'à se protéger contre les ricochets, les éclats. Ce ne fut pas trop long. Le roi des bandits, ses hommes, faisaient encore écrouler la voûte, en arrachant, au moyen de cordes disposées dans ce but, les étais qui soutenaient les rocs, que Martin Numa et Prosper étaient hors d'atteinte. Mais Prosper n'était pas content. Pour la première fois, il osa dire à son chef quelques mots, sans que celui-ci lui demandait de parler. Et ces quelques mots étaient un reproche. « Chef, dit Prosper, vous venez de perdre votre temps et de commettre bien inutilement une grave imprudence. « Croyez-vous ? Fit Martin Numa. « Oui, chef, et je ne vous comprends pas. Vraiment. Vous avez en face de vous votre ennemi. Vous lui servez de cible vivante, et vous n'avez pas même la pensée de lui répondre par un bon coup de feu et de vous débarrasser à jamais de cet homme qui vous donne tant de mal. » Martin Numa prit la main sur l'épaule de son lieutenant. « Je vous dirai pourquoi je ne dois pas le faire, mon bon Prosper. Je vous le dirai plus tard. Pour le moment, suivez-moi. » Martin Huma se mit donc à grimper pour gagner le haut de la grotte. Il lui fallait faire un grand détour, passer sous les arbres à travers les buissons d'épines. Dans cet endroit du bois abandonné depuis longtemps, la nature avait repris des droits et la végétation poussant à son aise donnait à ce coin d'ailleurs pittoresque et charmant des allures de forêt vierge. Or, dans les forêts vierges, il n'est pas commode de circuler. Il faut à tout instant se frayer son chemin, se tracer la route. Martin Huma et Prosper n'avaient pour marcher à travers les ronces aucun outil. Ils s'accrochaient aux ronces et avaient grand mal à avancer. Soudain, un coup de feu retentit, puis un autre, puis encore d'autres. Et au-dessus de la tête de Martin Huma, de Prosper, autour d'eux, des feuilles volèrent coupées, des brindilles craquèrent cassées et les balles sifflèrent. On les avait aperçues et on les canardait. « À terre !» fit seulement le roi des détectives. « À terre !» Prosper et son chef se mirent à plat ventre derrière un buisson épais, au centre duquel s'élevait un chêne au tronc volumineux. Là, les balles ne pouvaient les atteindre dans leur danse infernale. Cependant, Prosper, malgré lui, très énervé, bouillait et ronchonnait. « Chef, dit-il encore, nous ne pouvons nous cacher comme ça, rester indéfiniment à l'abri derrière ces branches, couchés dans les épines. Que voulez-vous faire? Donnez assaut à ces bandits. Nous ne pouvons avancer assez vite. Nous serions fusillés avant d'avoir fait 5 pas. Au moins, laissez-moi répondre. À quoi? À leur revolver. Le mien me brûle dans la poche, tant il a envie de parler à son tour. Si ça vous amuse, fit alors Martin Huma, si vous voyez un homme, tirez, mon bon Prosper, répondez, rendez-leur la politesse. Prosper se leva. Il tenait son revolver en main. Bientôt, il fit feu. La bataille recommença de plus belle. Depuis que le roi des détectives et Prosper s'étaient masqués à terre, les bandits avaient cessé de tirer. Le but leur manquait. À présent, ils le revoyaient. Prosper s'offrait. Prosper fut salué par une décharge générale. Une grêle de balles s'abattit autour de lui. Par chance, par la même chance qu'avait servi à Martin Huma, Prosper fut protégé, sauvé. Dans leur hâte de tirer, dans leur énervement, les bandits, au lieu de viser, tiraient vite, en crispant le poing sur leur arme, et naturellement faisaient trembler leurs mains et envoyaient leurs balles un peu partout, sauf vers le but. C'est ainsi que le revolver serait une arme admirable de défense, mais devient une arme des plus dangereuses, non pas pour l'agresseur, mais pour les gens bien intentionnés, qui accourent au secours de l'attaqué, ou pour les passants inoffensifs et en dehors de la question. C'est à eux, de préférence, que vont les balles de revolver. Cependant, Prosper, très calme, lui, très maître de ses nerfs, tirait lentement, coup par coup, visant chaque fois, ne faisant feu qu'à bon escient. Et des cris de douleur répondirent à ses coups de feu. Les cris des blessés avaient dominé les insultes et les hurlements de rage des bandits qui n'osaient avancer. Cependant, Martin Huma se leva tout à coup. « En avant !» dit-il à Prosper. « Hop, marchons !» Et de nouveau il s'élança, sans s'inquiéter des ronces, des épines qui s'accrochaient à ses effets. Martin Huma avait écouté les coups de feu des bandits, il en avait fait le compte. Et il savait que les revolvers à présent étaient épuisés, qu'il faudrait un certain temps pour les recharger, si perfectionnés que soit leur système. C'est ce moment de répit qu'il voulait mettre à profit. Les bandits se tenaient sur le rebord de la route qui passait au-dessus de la grotte. C'était l'ancienne route du charroi des pierres que l'on avait conservée et que l'on avait reliée à la route nationale. Martin Huma et Prosper allaient y atteindre, sortant des abris des fourrés d'épines, quand de nouveau les revolvers des bandits rechargés se mirent à partir. Mais dans le lointain, des coups de trompe d'automobile retentirent. Les bandits, surpris, s'arrêtèrent, intrigués, hésitants. Ils quittèrent le bord de la route d'où ils voyaient Martin Huma et se portèrent un peu en avant, où la route tournait légèrement, mais d'où l'on pouvait voir plus loin. Les bandits sifflèrent. C'était leur signal, leur sifflet de ralliement, de reconnaissance qu'ils firent entendre. La venue de cette automobile, en effet, les inquiétait. Mais à leur sifflet, pour toute réponse, quelques coups de trompe pour dire qu'on débarrassa le chemin. Les bandits, sans répondre, s'écartèrent, s'apprêtèrent à laisser libre la route. Sur cette route, cependant, pour ainsi dire, jamais ne passaient les automobiles. La vue de celle-ci les étonnait donc. Mais ils purent croire à une simple fantaisie, à une curiosité de touriste qui avait amené sur ce chemin cette voiture. Les bandits revinrent donc à Martin Huma qui approchait de la route. Ils se disposaient à le recevoir maintenant à coups de massue en caoutchouc, à l'assommer dès qu'il paraîtrait sur la route. Ce qui devait avoir lieu quand l'automobile aurait dépassé le coin où il se trouvait. Mais voici que l'automobile arrivait cornant, cornant. Et tout à coup la voiture stoppa, s'arrêta net. Quatre ou cinq hommes en sortirent et bondirent comme des tigres sur les bandits. Une bataille nouvelle s'engagea à coups de massue, et le revolver se remit à parler. C'étaient des hommes de Martin Huma qui accouraient. Philippe, tout à l'heure, en s'éloignant, avait donné l'alarme à ses hommes. Comme Prosper, il avait compris que la témérité du chef le poussait dans une entreprise inutile, dangereuse et sans résultat pratique. Mais avant de partir, de quitter la villa, bien que Martin Huma eût dit de se coucher, de se reposer, Prosper avait fait signe aux hommes. Ceux-ci, discrètement, s'étaient mis à suivre à distance le chef. Philippe, donc, n'eut, en s'élançant à la poursuite des dissidents, qu'à donner aux hommes l'ordre nécessaire. Et maintenant, ils arrivaient en auto au secours de leur chef. Martin Huma, entraîné par les événements, dut les subir. Il sauta sur la route avec Prosper et entra dans la bataille. Bataille qui ne dura pas longtemps. Les bandits, en vertu de leur principe d'extrême prudence, dès qu'ils comprirent que l'on venait au secours du roi des détectives, prirent la fuite, comme il leur arrivait dès que pour eux l'affaire semblait douteuse. Les bandits donc se dispersèrent sous bois et continuèrent à tirer des coups de revolver sur Martin Huma et ses hommes. Ils ne leur firent d'ailleurs aucun mal. Peu après, le ronflement des moteurs apprenait que sur la grande route, les bandits s'enfuyaient. Alors, Martin Huma, n'ayant plus d'ennemis à combattre ici, plus rien à faire aux alentours de cette grotte, consentit à prendre place dans l'automobile et s'en alla à son tour. Devant, à côté du chauffeur, se plaça un homme de Martin Huma qu'on appelait Julot. Julot était un garçon doué d'une adresse remarquable, un tireur merveilleux. C'est lui qui, avec la carabine, avait causé tant de mal à la voiture du roi des bandits lors de l'attaque de Melun. Il se tenait là, un revolver d'ordonnance au poing, l'ayant rechargé, car il lui avait donné de l'ouvrage, et non sans bon résultat. Il se préparait à répondre à la première balle qui serait tirée. Et sa balle, sauf de rares exceptions, ne manquait pas son but. Mais il n'eut pas à tirer. La victoire était définitivement acquise. Les bandits avaient fui.